Laudetur Jesus Christus.
Voilà un an que l'opposant russe Alexei Navalny est en prison. Il s'est exprimé aujourd'hui sur les réseaux sociaux et il ne regrette rien. Il appelle même les Russes à ne pas avoir peur. Tensions au sein des talibans, les querelles ethniques refont surface, certains groupes craignant d'être marginalisés par rapport aux pachtounes majoritaires parmi les talibans. L'Ukraine, toujours au cœur des relations entre occidentaux et russes, en jeu entre autres l'adhésion ou non de Kiev à l'OTAN, une ligne rouge pour Moscou. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir, Alexei Navalny ne regrette rien. Emprisonné depuis un an dès sa descente d'avion alors qu'il rentrait d'Allemagne, où il avait été soigné pour une tentative d'empoisonnement, l'opposant reste déterminé dans son combat contre les autorités. À Moscou, Jean-Didier Revoy.
Alexei Navalny ne regrette ni son retour en Russie, ni son incarcération, ni la dissolution de toutes les organisations qui lui sont liées. J'ai essayé par tous les moyens d'attirer de mon côté ceux qui sont honnêtes et qui n'ont plus peur, peut-on lire sur son compte Instagram, alors qu'il purge une peine de 2 ans et demi de prison à régime strict dans un établissement pénitentiaire situé à une centaine de kilomètres à l'est de Moscou. Un établissement qu'il a qualifié de camp de travail chinois, où règne un contrôle permanent couplé à une culture de la délation. Il se lève à 5h30 tous les matins avant d'effectuer divers travaux. Avec ses co-détenus par tranche, mais tout de même 8 heures par jour, ils sont contraints de regarder des émissions de la télévision d'État ou des films de propagande choisis par le directeur de la prison. Mais les gardiens veillent. Dès que l'un d'eux s'assoupit, il le rappelle à l'ordre en lui disant de regarder l'écran. Quant à ses collaborateurs, ils ont pour la plupart fui le pays de peur d'être condamnés à de lourdes peines de prison. Dans la capacité d'opérer en Russie, les proches d'Alexei Navalny utilisent les réseaux sociaux pour tenter de garder le contact avec leurs partisans et s'efforcer de les garder mobilisés. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
En Ukraine, l'ancien président Petro Porochenko pourrait être arrêté pour haute trahison ou devoir payer une caution de 30 millions d'euros. Rentré ce matin à Kiev après un mois à l'étranger, il est accusé par le parquet d'avoir travaillé avec un mania pro-russe proche de Vladimir Poutine pour faciliter l'achat de charbon à des entreprises situées dans l'est de l'Ukraine aux mains des séparatistes pro-russes, des accusations qu'il conteste. Explosion de camion-citerne à Abu Dhabi ce matin près des réservoirs de stockage d'une compagnie pétrolière. Incendie mineur également dans une zone en construction de l'aéroport de la ville. 3 personnes ont perdu la vie selon un dernier bilan. Selon les autorités émiraties, ce sont les rebelles yéménites Houthis qui sont les auteurs de ces attaques. Ils avaient précédemment annoncé une opération militaire d'envergure aux Émirats arabes unis. Ce sera ainsi la première de ce genre contre un des membres de la coalition arabe qui combat au Yémen contre les Houthis. Nouvelle manifestation au Soudan aujourd'hui contre le pouvoir militaire. 7 manifestants ont été tués selon un dernier bilan. Les protestataires ont tenté d'approcher du palais présidentiel à Khartoum. Malgré une forte présence policière et militaire dans les rues, les forces de l'ordre n'ont pas hésité à tirer à balles réelles en plus des tirs de gaz lacrymogène et des canons à eau. Une 15 personnes ont été tuées ce week-end dans l'est de la République démocratique du Congo, en Ituri. Des miliciens de la CODECO sont accusés par les autorités locales d'avoir mené 2 attaques contre des localités, pillant et incendiant les maisons, tuant des habitants donc. Un autre groupe rebelle, la Force patriotique et intégrationniste du Congo, est également accusé d'avoir mené ces exactions. Séisme en Afghanistan, une secousse de 5,3 de magnitude sur le magnitude 5,3 donc sur l'échelle de Richter a fait selon un dernier bilan au moins 12 morts dans la province de Badghis, plusieurs blessés ont été dégagés des gravats selon les autorités locales. Toujours en Afghanistan, les talibans ont organisé hier un défilé militaire dans la ville de Maimana, capitale de la province de Faryab, dans le nord-est du pays. Cette démonstration de force a eu lieu après des tensions avec des chefs talibans locaux. L'un d'eux, accusé d'avoir enlevé des jeunes femmes, avait été arrêté, suspendu de ses fonctions. Une sanction qui a suscité la colère de ses partisans. Les précisions d'Emmanuel Derville.
Le défilé militaire des talibans à Maimana a eu des allures de démonstration de force dimanche. Le régime islamiste tente de rétablir son autorité après les affrontements de la semaine dernière. L'arrestation d'un chef taliban de l'ethnie ouzbek avait déclenché des heurts avec des combattants talibans de l'ethnie pachtoune, à tel point que vendredi dernier, les rues de Maimana étaient désertes. Pour le régime taliban, il est vital que les tensions avec l'ethnie ouzbek soient étouffées au plus vite pour éviter que ces combattants locaux ne rallient des figures politiques de l'ancien régime qui ont fui à l'étranger après la chute de Kaboul. La crise économique et le caractère peu représentatif du gouvernement taliban pourraient nourrir le mécontentement des minorités ethniques qui s'estiment écartées du pouvoir. Les islamistes ont rencontré la semaine dernière des personnalités proches de l'ancien régime, dont le leader de la communauté Panjshiri, Ahmad Massoud à Téhéran, mais ces discussions n'ont rien donné. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
L'Iran renoue peu à peu le dialogue avec les Saoudiens. Téhéran a ouvert un bureau pour sa mission diplomatique auprès de l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, à Jeddah en Arabie Saoudite. Cette ouverture intervient 6 ans après la rupture des relations entre Téhéran et Riyad. Le ministre iranien des Affaires étrangères confirme qu'il s'agit là d'un prélude avant la réouverture des ambassades. Lancement de 2 nouveaux projectiles par la Corée du Nord. Il s'agit probablement de missiles balistiques selon Séoul. Ce serait ainsi le 4e essai d'armement depuis le début de l'année. Réaction des États-Unis. Pyongyang doit cesser ses activités illégales et déstabilisatrices. Washington renouvelle par ailleurs sa proposition de dialogue sans condition préalable à la Corée du Nord. L'Allemagne aux côtés de l'Ukraine face à la Russie. La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a promis aujourd'hui à Kiev que Berlin ferait tout pour garantir la sécurité de l'Ukraine face aux ambitions russes, tout en souhaitant un dialogue sérieux avec la Russie. C'est le dernier rendez-vous diplomatique en date d'une longue séquence qui s'est ouverte la semaine dernière avec la rencontre bilatérale lundi entre les États-Unis et la Russie et qui s'est poursuivie dans la semaine mercredi avec des discussions entre l'OTAN et la Russie. Certes, chaque partie campe sur ses positions. Moscou ne veut pas d'une adhésion de Kiev à l'OTAN et les Occidentaux, de leur côté, ne ferment pas la porte aux Ukrainiens. Rien d'étonnant, selon Jean-Sylvestre Montgrenier, il est chercheur à l'Institut Thomas More. Il revient sur ce que veut, selon lui, le président russe et la manière dont les Occidentaux doivent répondre, toujours selon lui.
Ce que Poutine veut faire, c'est reconstituer, sous une autre forme, certes, mais c'est reconstituer ce qu'était l'Union soviétique autrefois. Il nous le dit depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et on fait semblant de ne pas comprendre, de penser que c'est un pur exercice de rhétorique qui vise à flatter l'opinion publique, mais qu'il faut certainement pas le prendre au sérieux. Il nous l'a dit ouvertement au milieu des années 2000, l'effondrement de l'URSS était une catastrophe géopolitique. Avant même Poutine, dès le début des années 90, les officiels russes ont adopté ce que l'on appelle la doctrine de l'étranger proche, c'est-à-dire qu'ils considèrent que tous les États issus de la dislocation de l'URSS, qui sont reconnus sur le plan international, qui sont membres de l'ONU, avec lesquels nous avons des relations diplomatiques, ils considèrent que tous ces États, en fait, ne sont pas de vrais États, et à un moment ou un autre, devraient revenir sous la coupe de la Russie. C'est aussi simple que ça. Enfin, on commence à l'admettre.
Concernant donc l'Ukraine, puisque c'est le problème numéro un actuellement, que peuvent faire justement les pays européens et les Nord-Américains ?
Maintenir leur soutien à l'Ukraine, donc un soutien financier, un soutien politique, diplomatique, comme c'est le cas aujourd'hui, un soutien militaire, c'est-à-dire au minimum, il faut leur donner les moyens de se défendre par eux-mêmes, si on n'est pas prêt à intervenir militairement pour les défendre, un soutien économique, un soutien financier, la palette est large.
Comment s'appliquerait cette fermeté concrètement vis-à-vis de la Russie ?
Déjà, là, c'est ce que l'on fait. Si on regarde la séquence diplomatique qui est ouverte depuis lundi, bon, le fait est que la diplomatie américaine maintient les lignes et refuse d'accorder à la Russie un quelconque droit de veto sur les décisions qui sont prises à l'intérieur de l'OTAN. Ça a été confirmé ensuite dans le Conseil OTAN-Russie. Et puis alors ensuite, et c'est quelque chose qui est amorcé maintenant depuis quelques années, il faut s'en sortir de cette période au cours de laquelle on avait pensé qu'on pouvait baisser la garde, baisser les dépenses militaires. Il faut véritablement faire front. Si on est dans une nouvelle guerre froide, et c'est effectivement une nouvelle guerre froide, ça signifie que la fermeté, la résolution diplomatique, elle doit aussi avoir ses prolongements sur le plan militaire.
Voilà, c'était Jean-Sylvestre Montgrenier, chercheur à l'Institut Thomas More. Il était ce soir l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin, 8h30, heure de Rome. D'ici là, n'oubliez pas notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook et notre compte Twitter. Excellente soirée à toutes et à tous.